C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au XXIe siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Salut, c'est Charles Cécile. Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est pas pour dire, je devrais dire dans ces nouvelles émissions. Quelquefois, la pensée mérite qu'on lui laisse un peu plus de temps pour se déployer, et c'est le cas avec notre invité du jour. Alors, qui est-il? Si je vous dis qu'il est journaliste, spécialement intéressé par les arts vivants, si je vous dis qu'il a travaillé entre autres à France Culture, et si j'ajoute... qu'il a été le fondateur et le directeur de la fameuse revue Cassandre Orchamp, ça y est, vous avez deviné. Aujourd'hui, rencontre avec Nicolas Roméas. C'est Karine Mazel, conteuse, qui provoque la rencontre et invite Nicolas Roméas à s'exprimer à propos du geste artistique, de l'art dans la société et de l'oralité.
D'abord, je suis né dans une espèce de bouillon de poésie dans lequel j'ai passé mon enfance, mon adolescence, quotidiennement. C'est-à-dire j'étais rempli de mots de poètes anciens et modernes à un moment de ma vie, au début, où je ne savais pas très bien quoi en faire. C'était comme une espèce de mer dans laquelle je baignais, et il fallait que j'en fasse quelque chose, parce que les mots, quand ils sont livrés à eux-mêmes, font des ravages et ne proposent pas forcément un outil dont on peut faire quelque chose soi-même. Et donc je me suis orienté vers le théâtre, mais comment on va vers un radeau, comment on construit un radeau pour ne pas couler, faire quelque chose avec les mots, faire quelque chose avec le rapport entre le corps et la parole, et la voix, et les mots. Et donc j'ai fait du théâtre à la sauvage, à une époque où ça se faisait beaucoup, dans les années 70, où les gens allaient faire du théâtre un peu comme on apprend à vivre en société, comme on apprend à être avec les autres. Et donc on a monté des ateliers, etc. Puis j'ai écrit des pièces, puis je les ai montées. Tout ça a été extrêmement bricolé et très prétentieux finalement. Mais voilà, je ne regrette pas du tout, parce qu'il fallait faire quelque chose avec ce qui me remplissait. Ensuite, il y a eu la période des radios libres, et avec une bande de copains de mon atelier, on a... monté une radio, on a monté une grande émission dans une radio, plutôt à Montmartre, qui s'appelait Shakespeare et compagnie, où on recevait des jeunes metteurs en scène, jeunes autrices et auteurs, des jeunes directrices et directeurs de lieux, etc., etc. Enfin, pas mal de gens qui ensuite sont devenus des acteurs importants de la vie culturelle française sont passés sous notre micro et c'était assez exaltant de faire ça. C'était une époque où quelque chose se passait, où il y avait pas mal de gens nouveaux, pas mal de tentatives un peu différentes de ce qui se passait. Et j'ai commencé à comprendre ce qu'avait été, j'ai commencé tout doucement à comprendre ce qu'avait été la décentralisation théâtrale en France, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrivait dans le grand mouvement de la libération et qui avait ses racines encore bien plus anciennes dans l'histoire française, mais qui donnait le sentiment qu'on allait pouvoir remettre l'art, ou en tout cas ce qu'on appelle les arts vivants. C'est toujours une formule qui me fait des frissons, les arts vivants, parce que ils sont pas toujours à la hauteur de ce mot, ce qu'on appelle les arts vivants, mais en tout cas les arts où il y a des gens qui sont vivants face à d'autres gens qui sont vivants, en tout cas. Que ces arts-là étaient porteurs d'un renouveau et pouvaient peut-être retrouver leur fonction première, ou en partie retrouver leur fonction première, qui est de s'adresser à la collectivité et de fabriquer, en même temps qu'elle s'adresse à elle, de fabriquer cette collectivité. C'est-à-dire que la collectivité, je crois que Peter Brook dit quelque chose comme ça dans un de ses bouquins, à l'instant même où les gens sont ensemble dans une salle, ils deviennent une collectivité humaine qui partage les mêmes choses, qui sont traversées par les mêmes choses. Et j'ai commencé à découvrir cette puissance-là du théâtre à ce moment-là.
Nicolas Roméas, c'est pas pour dire.
Donc en tout cas, cette histoire de la décentralisation théâtrale qui a fait que ce qu'on appelait les déserts culturels, enfin les campagnes françaises, la province profonde de France, qui n'était irriguée que de tournées, les tournées barrées, les tournées Carcenti, etc., qui étaient en fait des troupes parisiennes qui faisaient le tour de France et qui donc ne connaissaient pas autre chose. Tout d'un coup, à la Libération, grâce à Jeanne Laurent, etc., enfin, j'ai commencé à apprendre toute cette histoire, se sont vus dotés de centres dramatiques nationaux. Et lorsque j'ai pris connaissance de cette histoire, j'étais à ce moment-là dans un cours de théâtre avec le petit-fils de Jean d'Asté, un des petits-fils de Jean d'Asté, et qui me dit, il faut absolument que tu connaisses mon grand-père, c'est quelqu'un de très important, c'est un pionnier dans cette belle histoire. Et par la suite, j'ai rencontré Jean d'Asté, avec qui j'ai fait une émission, en effet, à France Culture, dans une série qui s'appelle Mémoire du siècle, où pendant une heure, il nous raconte ce qu'il a essayé de faire avec cette flamme particulière qui animait des gens d'origine très diverse. Certains étaient des communistes, d'autres étaient des scouts, des cathos, d'autres étaient des gens de la vie civile qui tout d'un coup avaient compris que après-guerre, c'était important de comprendre que la collectivité a besoin de se nourrir de symbolique, d'autres choses, de quelque chose qui répare un peu les ravages des différentes hostilités qui étaient manifestées à ce moment-là par une guerre absolument atroce qui venait d'avoir lieu. Et donc on a eu l'impression à ce moment-là, c'est ce que j'ai compris moi à ce moment-là de ma vie, mais on a eu l'impression de la libération que le théâtre, ou ce qu'on appelle les arts vivants en général, peuvent servir à ça, peuvent servir à réparer les fractures d'un peuple qui, comme on le sait, était très mal en point, quoi.
C'est pas pour dire avec Karine Mazel en compagnie de Nicolas Roméas.
En réfléchissant, je me suis aperçue que je ne sais pas comment est née d'où est venue la naissance de la revue Cassandre. Qu'est-ce qui l'a motivée? J'ai rencontré moi la revue en tant que conteuse, artiste, ça a été très précieux pour moi. Et cette joyeuse équipe de Cassandre, comment s'est-elle rassemblée et autour de quel projet?
Alors moi, ensuite, j'ai eu cette période radio libre. Et puis, miraculeusement, d'une radio libre à l'autre, j'ai fini par atterrir à France Culture chez Jean Lebrun, qui tenait à cette époque la matinale de France Culture, qui s'appelait Culture Matin, et qui était une sorte de très grand journaliste, extrêmement professionnel, que tout le monde respectait et admirait, et qui avait cette particularité d'ouvrir sa porte à des gens qui n'étaient pas du Sérail. France Culture était une radio assez sclérosée à l'époque, avec beaucoup d'universitaires qui venaient, presque faire leur retraite au micro de France Culture. Mais il y avait aussi cette possibilité, en tout cas chez Lebrun, de parler différemment, de faire autrement, d'essayer de découvrir des choses dont on ne parlait pas du tout dans cette radio habituellement. Et j'ai donc fait pendant 6 ans le journaliste porteur de Nagra. À l'époque, c'était un magnétophone à bande très lourd qui pesait 8-9 kilos comme ça. Et qu'on se trimballait dans des inaugurations de centres culturels à l'autre bout de la France, etc. Donc c'était un métier assez ingrat. Mais en même temps, on était prêt à tout parce que la carte de visite de France Culture nous honorait tellement que... Et dans cette émission, il y avait une documentaliste qui s'appelait Claire Martin-Dugard, qui était la petite nièce de Roger Martin-Dugard, qui était le directeur des Nouvelles Littéraires. Et les Nouvelles Littéraires a été, notamment pendant l'entre-deux-guerres, une revue extrêmement importante où Par exemple, Léon Blum était critique de théâtre. Donc on voit bien que si Léon Blum parlait de théâtre, c'était bien parce qu'il y voyait un aspect politique. Jacques Copeau, dans sa jeunesse, qui était un galeriste, qui s'intéressait un peu au théâtre et qui écrivait dessus, tenait aussi une rubrique dans les nouvelles littéraires, etc. Enfin, tout ça me plaisait beaucoup. Et le format revue, les revues à l'ancienne, les grandes pages, avec de beaux articles, tout ça très soigné et très valorisé, avec en plus le fait que l'art et le théâtre en particulier y étaient considérés comme un outil réellement de transformation de la pensée des gens, enfin de la société, quoi. Tout ça m'excitait beaucoup et je me disais que j'aimerais beaucoup faire une revue, moi aussi, mais je ne voyais pas comment je pouvais faire ça parce que je n'avais pas le premier sou pour le faire et pas de collaborateur. Alors j'ai commencé à faire une expérience avec quelqu'un d'autre qui voulait aussi créer une revue. Nous avons créé une première revue. Cette revue existe encore, elle s'appelle Ubu, Scène d'Europe. Et on l'a créé avec Chantal Boiron, juste avant que je décide qu'il fallait que je fasse ma chose et que je renonce peu à peu aussi à être à France Culture, parce que, à vrai dire, j'avais pas du tout l'état d'esprit pour y faire carrière. Et donc peu à peu j'ai quitté France Culture, j'ai laissé cette première revue et j'ai tout misé sur la création ex nihilo, à partir de rien, d'une revue dont le but évidemment était de dire ce qui ne se dit pas d'habitude, évidemment était de dire que l'art, ça n'est pas simplement dans les lieux qui sont faits pour ça, ça n'est pas seulement je veux dire un objet de la parole des experts, c'est aussi quelque chose qui peut révéler une utilité sociale profonde dans des lieux complètement inhabituels par rapport à ce qu'on connaît, comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques, etc. Mais chose que j'entrevoyais un tout petit peu, que je commençais à voir, mais que je connaissais peu. Et c'est en faisant la revue, c'est en rencontrant des gens, c'est en discutant avec, par exemple, Edith Rapoport, qui était l'épouse de Jacques Lifshitz et qui allait au moins 3 fois par jour voir des pièces, et très souvent dans des lieux de ce type, des lieux, ce que j'appelle maintenant des lieux de difficulté, que j'ai compris que c'était très très important de s'aventurer dans ces territoires-là.
Entretien entre Nicolas Roméas et Karine Mazel.
C'était une équipe transversale avec des gens qui sont des praticiens de théâtre, des gens qui sont des théoriciens de théâtre. Comment s'est composée cette équipe pour fonder Cassandre Orchamps ?
Ça s'est passé avec d'abord la rencontre d'une personne qui a été extrêmement précieuse, qui s'appelle Valérie de Saint-Dô, qui était ce qu'on appelle une actrice culturelle, qui participait à énormément de débats, notamment dans le sud de la France, notamment en Gironde, c'est là que je l'ai rencontrée, et qui était qui est toujours d'ailleurs un esprit extrêmement brillant et une journaliste hors pair. Avec Valérie, on a commencé à... Avec l'aide d'ailleurs de Thierry Pariente, qui nous a portés en nous prêtant ses bureaux et en nous aidant financièrement pendant les premiers numéros. Mais on a commencé à écrire, à parler, à découvrir et du coup à rencontrer aussi des gens qui avaient envie d'écrire, etc., etc. Mais au tout début, nous n'avions pas le premier centime. Donc tout ça a été bénévole. Et pour moi aussi, ça a été bénévole, pour moi et Valérie, pendant les 4 ou 5 premiers numéros. Ensuite, comme mon discours était qu'il fallait un service public de l'information culturelle pour soutenir le service public de la culture, et que nous voyions bien que dans la presse habituelle, c'était un peu difficile de parler de choses qui ne rapportent rien, qui ne donnent ni pouvoir ni moyens à ceux qui en parlent. C'était une question qui nous intéressait beaucoup. Et nous avons, en 1998, je crois, créé un grand débat au Théâtre de la Colline qui s'appelait le rôle de la presse dans le combat culturel. Ça nous a rapproché de pas mal de gens. On a commencé à découvrir des jeunes gens qui avaient envie de ça, qui eux-mêmes nous découvraient et se disaient que peut-être il y avait autre chose à faire que ce qu'on leur proposait habituellement, c'est-à-dire de la vieille critique obéissante et soumise aux normes et au pouvoir artistique existant. Quelques jeunes gens se sont joints à nous, mais on n'était pas nombreux, on était 3, 4, 5 dans les grands moments. Mais petit à petit, comme on était animé d'une ambition assez folle par rapport à nos moyens, quelques années après, on a créé les rencontres nationales en région pour l'action culturelle et artistique. La première a eu lieu au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, à l'époque de Nordet et de sa compagne Valérie Lang. Et ça nous a amené à nous des gens de partout en France, qui très souvent ne se connaissaient pas les uns les autres, qui sont restés encore aujourd'hui des amis ou des relations, et qui, en Auvergne, dans le nord de la France, partout, font des choses dans ce que j'appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible, ce qui n'a pas vocation à fabriquer des vedettes, et qui attire très peu de moyens, mais qui doit être considéré comme un service public, soutenu par l'État, les collectivités, etc., parce que c'est absolument indispensable que ça existe. Donc on a commencé à découvrir cet univers-là en créant ces rencontres en région. On en a créé une à Lyon, une à Los Angeles, une à Bordeaux, une à Paris, et puis on n'a pas pu faire toutes les régions de France parce que c'était trop compliqué pour nos frêles épaules. Mais ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens et d'obtenir quelques moyens parce que, bien que nous refusions de donner la parole aux subventionneurs, ils nous donnaient quand même une petite aide.
C'est pas pour dire avec Karine Mazel en compagnie de Nicolas Roméas.
Oui, de ce que j'entends, il y avait vraiment une volonté chez vous de rendre visible le travail qu'on dit aujourd'hui de terrain, mais en fait qui est simplement la manière dont les artistes s'inscrivent dans le lieu où ils vivent avec les gens qui sont là autour et qui ne sont pas dans des logiques de reconnaissance institutionnelle, de carrière, et dont la préoccupation majeure était la question de l'écho de leurs paroles d'artistes dans le monde aujourd'hui. Et d'où peut-être le sous-titre ou a collé à Cassandre ce mot « hors champ », c'est-à-dire ce qui est à la marge, ce qui est habituellement pas au centre de l'image et invisible, que vous rendiez visible. Et j'en viens du coup au fait que vous vous êtes intéressé, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'art en prison, à l'art en psychiatrie, mais aussi aux disciplines dites mineures, qu'étaient considérées en tout cas à l'époque les arts de la marionnette, les arts de la rue. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ce sujet ?
Effectivement, à réfléchir à ce qui se passait, que nous voyons et que nous découvrions souvent, qui était que dans des tas d'endroits qui ne sont pas faits pour ça, il se passe des choses complètement passionnantes et souvent beaucoup plus passionnantes que ce qui se passe dans les théâtres. Et une de mes premières expériences dans ce domaine, je parlais d'Edith tout à l'heure, parce que Edith est une fouineuse modeste qui ne s'en vante pas beaucoup, mais qui découvre énormément de choses. Et effectivement, le fait d'être à la DRAC, ça l'aidait, quoi. C'était un véhicule utile pour elle. Mais par exemple, j'ai rencontré les premiers travaux d'Olivier Coudert qui, par exemple, montait les dramaticules de Beckett dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne avec de jeunes autistes. Et j'ai peut-être jamais autant ri devant un texte théâtral que cette fois-là. C'était extrêmement drôle. Et tout d'un coup, j'ai compris quelque chose. C'était une expérience fondatrice pour moi, ce petit spectacle. J'ai compris que seul l'art pouvait permettre de passer par-dessus tous les malentendus qui nous séparent de gens considérés comme anormaux. Parce qu'on n'a pas le langage commun pour s'exprimer avec eux, qu'il faut un temps fou pour comprendre le code de quelqu'un qui est autiste et tout ça, mais que quand ils prononcent les mots de Beckett, la communication est immédiate. La communication entre moi, spectateur, et cette personne autiste est immédiate, fulgurante, absolument immédiate, c'est le mot, grâce à Samuel Beckett. Alors ça, j'ai vécu comme ça des moments, comme des petits cailloux sur le chemin, là, des moments précis qui tout d'un coup ont révélé des choses dont on pouvait parler, on pouvait espérer que ce soit comme ça, mais on pouvait prétendre que nous voulions un art utile, un art qui soit un véritable outil de la société, et non pas une cerise sur le gâteau, non pas quelque chose en plus de la vie de la collectivité humaine. On pouvait en parler, mais le prouver sensoriellement, le faire ressentir, le faire traverser le corps des gens, leur faire partager le frisson de ça, de cette vérité incroyable, qui d'ailleurs est extrêmement compliquée à dire autrement qu'en y faisant passer de l'émotion, parce que ce n'est pas abstrait, ce n'est pas théorique, c'est quelque chose qui implique la présence totale de l'être. Ce que je viens de dire, par exemple, cette communication immédiate avec de jeunes autistes, c'était ça, c'était quelque chose qui nous traversait. Et cette flèche qui nous traversait, qui partait d'eux et qui allait jusqu'à nous et qui revenait vers eux, c'était Beckett. On peut penser que Beckett est un auteur difficile, obscur, abscon, etc. Et tout d'un coup, comprendre que c'est d'une simplicité totale, absolue, que ça fonctionne parce que c'est un humour sur nos failles, c'est un humour qui montre qu'on est tous des handicapés. Que si on essaye de s'exprimer, c'est parce que c'est extrêmement compliqué de faire passer quoi que ce soit avec des mots. Et la manière dont Beckett le fait, c'est une écriture du handicap, au fond. C'est-à-dire qu'elle révèle le handicap qui est celui de tous, sauf quand ils mentent. C'est-à-dire quand ils prétendent que leur discours reflète la vérité, la réalité, que leur discours est exact. Leur discours n'est jamais exact. Et c'est pour ça que Beckett est un propulseur de relations parfait parce qu'il est bancal. Après, les autres formes dites mineures qu'on a rencontrées, moi j'étais, depuis que je suis petit, passionné par les marionnettes, comme beaucoup d'enfants. J'avais un petit Castelet quand j'étais gamin, j'ai toujours adoré les marionnettes, j'ai toujours adoré faire des marionnettes pour ma sœur, pour mes frères et sœurs, changer de voix, devenir quelqu'un d'autre, faire vivre un objet ou un bout de tissu. Ensuite, j'ai fabriqué des marionnettes à fil. Enfin, je sentais bien que là-dedans, quelque chose qui venait de l'enfance était en fait quelque chose qui venait de la profondeur sacrée de nos origines. Et que ça passait par l'enfance, comme beaucoup de choses passent par par le fœtus que nous sommes, nos origines biologiques, et dans notre enfance, probablement aussi des choses qui viennent de l'enfance de l'humanité. Et je ressentais vraiment ça avec la marionnette qui me fascinait et dont je ne comprenais pas qu'on lui donne aussi peu d'importance. Et à ce moment-là, moi, j'étais aussi, j'ai eu une période où j'étais machiniste pour gagner ma vie dans les grands théâtres parisiens, et notamment à Chaillot, où Antoine Vitez montait de grands spectacles et avait invité Alain Recoing, qui était donc un des grands marionnettistes français, patron de l'UNIMA, etc., qui était très proche de Vitez, et à qui Vitez avait demandé de construire un petit Castelet dans Chaillot. Chaillot, c'est un théâtre immense, et on peut y faire plein de choses, dans les escaliers, dans les couloirs, partout, c'est un lieu gigantesque. Et donc il avait construit un petit théâtre de marionnettes, auquel, en tant qu'accessoiriste à l'époque, j'ai participé. Donc je manipulais des marionnettes de la Tentation de Saint-Antoine, montée par Alain Recoing, qui reprenait une pièce que montait Vitez en vrai. Mais alors le rapport que le théâtre, avec un grand T et un grand accent circonflexe sur le A, entretenait avec la marionnette, c'était ce rapport de... Le théâtre, c'est le vrai. Le théâtre, c'est là que ça se passe. La marionnette, c'est un peu à côté, c'est un peu plus petit, c'est un peu... Puis ça a fini par être connoté pour les enfants. Comme le conte aussi a fini par être connoté pour les enfants, comme si c'était une stratégie politique pour désamorcer la puissance réelle, la puissance sociale et politique de ces arts. Et donc ça me chagrinait beaucoup, et j'avais très envie de parler de la marionnette autrement, de parler de la marionnette comme d'un art très 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 important, et aussi bien en évoquant le Caragueuil, ce qui fait le tour de la Méditerranée, avec ces personnages qui sont articulés, qui sont plaqués contre des peaux de buffles transparentes, avec des lumières qui créent des espèces d'ombres, mais pas des ombres noires et blancs, des ombres colorées, qui était le Caragueuil, un personnage qui représentait le peuple en révolte contre l'oppression. Guignol, chez nous, qui c'était un représentant de la révolte des canuts contre les grandes filatures de soie lyonnaises. Dès qu'on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit que ce petit art, qui notamment pour Guignol permettait de s'esquiver rapidement en mettant toutes les marionnettes et tout le Castelet dans une valise et de quitter les lieux quand la police arrivait dans les arrières-cafés, dans les salles des cafés où se produisaient ces représentations très subversives et très, très politiques, on s'aperçoit que derrière l'imagerie qu'on en véhicule, du conte gentillet, sympathique, moralisateur, et de la marionnette réduite à ce qu'on a fait de Guignol dans les jardins publics, en tout cas à Paris, aujourd'hui, y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui est caché, en fait. Il y a quelque chose qui est occulté, qu'on ne nous montre pas, qui est d'ailleurs un vrai art populaire. Et un véritable art populaire, c'est-à-dire un art qui n'est pas passé par les fourches codines de l'institution pour exister, qui n'a pas accepté des normes qui le valoriseraient, comme ça a été très souvent le cas pour la musique, ou même parfois souvent pour la peinture, que ces formes d'art ont eu besoin de passer par les puissants pour exister réellement et pour être accompagnées, soutenues, etc. Là, ce sont des formes réellement populaires. Donc on a essayé de parler de ça beaucoup, ça nous a beaucoup, beaucoup intéressé. Et à plein de niveaux, la marionnette, c'est comme je pense que c'est quelque chose qui vient de l'enfance de l'humanité, disons, ça parle de l'âme, ça parle de spiritualité, ça parle de fantômes, ça parle de choses qui n'existent pas et qui tout d'un coup deviennent à peine visibles. Donc ça parle de magie, mais au sens profond du mot, pas au sens qu'on utilise souvent aujourd'hui, mais de la véritable magie qui donne vie à l'inanimé, comme notre imaginaire le fait tout le temps.
Quelle a été ta première rencontre avec l'art du conteur ?
Je ne suis pas très doué en chronologie. Des fois, je mélange les époques. Et je sais que, en tout cas, le conte m'intéressait beaucoup parce que je dois dire que tout ce que j'ai traversé à ce moment-là, y compris pour la marionnette, a coïncidé par chance ou par synchronicité un nouveau développement de ces formes. Nouveau développement que nous, avec cette revue, on essayait d'influencer dans une direction, mais qui souvent allait en vérité vers ressembler le plus possible au grand théâtre. Dans le cas du conte, c'est évident. Et moi, ce qui me semblait, c'était que le conte était porteur de quelque chose que le théâtre ne sait plus faire en Occident, c'est de la véritable relation entre celui qui s'exprime et celui qui entend, et qui peut éventuellement répondre, d'ailleurs. Donc c'est pour moi le souvenir d'une autre civilisation, c'est le souvenir d'une autre manière d'être ensemble, c'est le souvenir de souvenirs qu'on peut retrouver, par exemple quand j'ai rencontré Sotigui Kouyaté la première fois, qui faisait des contes au centre Mandapa et qui était par ailleurs comédien chez Peter Brook et qui par ailleurs était, faisait partie donc d'une caste de griots mandingues. On voyait bien que, par exemple, la direction dans laquelle Sotigui allait, c'était pas celle du théâtre occidental, c'était autre chose. Et que c'était pas seulement se soumettre au code du théâtre occidental, c'était aussi apporter quelque chose au théâtre occidental pour qu'il retrouve quelque chose de très sensible à l'intérieur de lui, de son histoire. Et qui s'est certainement fait en partenariat d'ailleurs avec Peter Brook, quand Sotigui a travaillé avec Brook pendant de longues années. Donc le conte pour moi, c'était quelque chose qui reste de ce que le théâtre a été, comme une sorte de fantôme un peu fragile, un peu falot de ce que le théâtre a pu être, c'est-à-dire un véritable partage sensible à une époque où le théâtre occidental, c'est-à-dire le théâtre complètement cadré, complètement fermé, avec ce quatrième mur infranchissable entre la scène et la salle, avec cette professionnalisation des comédiens et, j'allais presque dire, cette professionnalisation de l'autre côté des spectateurs qui... dont on sait que beaucoup, d'ailleurs, sont effectivement des professionnels du spectacle, ou de la critique, etc., du journalisme. Donc, dans cette domination royale du théâtre, avec un grand R, domination qui est passée par les monarchies, je rappelle. C'est une domination qui vient du théâtre de cour, et qui vient notamment de Louis XIV. Qui souhaitait que le théâtre en général, les textes de théâtre, les auteurs de théâtre, lui appartiennent à la cour de France. Et donc qui interdisait que ces textes soient joués par ailleurs, etc. Ce qui a favorisé notamment des formes comme la marionnette et peut-être même l'invention du mime. Mais cette autre forme qui venait de loin, qui venait de l'ombre obscure de notre passé lointain, qui est le conte, et qui arrivait au XXe siècle, je parle du XXe siècle là, comme quelque chose d'un tout petit peu moins bien que le théâtre, et sympathique, un peu plus humain, un peu plus destiné aux enfants, et destiné aussi à... récolter des paroles anciennes et les répéter intarissablement, ce qui est le contraire du phénomène de la tradition véritable. La tradition, ce n'est pas la répétition. Trad, ça veut dire à travers. Donc c'est avancer à travers, c'est traverser. Comme dans traduction. Donc cette manière de dévaloriser des formes que nous considérions comme extrêmement importantes, rendait très difficile d'en parler d'une manière audible. C'était très difficile d'expliquer que le conte, c'était quelque chose qui venait des débuts de l'humanité parce que c'était le récit des peuples et que le récit du peuple, c'est ce qui fait qu'un peuple existe. Mais on le sait par Homère, on le sait par la tradition des Aèdes et des Rhapsodes grec, albanais, dont parle Ismaïl Kadaré, etc. Mais on ne le vit plus au présent du tout. Et au présent, on dit, bon, bah, le conte, c'est sympathique. D'ailleurs, Walt Disney s'en empare, il enlève ce qui est un petit peu gênant, c'est-à-dire ce qui est opérationnel, ce qui est le véritable outil du conte, Walt Disney l'enlève. Il enlève ce qui fait trop peur, il enlève ce qui est initiatique finalement dans le conte, pour en faire quelque chose d'américain, d'agréable, du début à la fin, sans ces aspérités qu'on est obligé de dépasser et qui nous apprennent quelque chose parce qu'on est obligé, nous, de les dépasser, parce que sinon, on a trop peur ou on est perdu. Donc, ce fonctionnement-là commençait à être éteint. Et tout ce que je voyais dans le monde culturel français, c'est-à-dire parisien, à peu près, c'était une volonté de faire du conte quelque chose d'aussi bien que le théâtre, c'est-à-dire avec les mêmes règles que le théâtre, avec une durée, des éclairages, une séparation entre la scène et la salle, etc.
C'est pas pour dire avec Karine Mazel en compagnie de Nicolas Roméas.
Souvent les programmateurs se moquent un peu de nous parce qu'ils disent « Ah oui, vous allez encore mettre les chaises en arc de cercle ». Et d'ailleurs ce cercle, Peter Brook, était très attaché à l'espace de travail circulaire. Et pour avoir eu l'occasion de travailler dans une yourte, effectivement, la circularité installe un autre type de rapport, aussi bien au plan réel, dans l'espace, d'un aménagement d'un espace, mais aussi quand on travaille avec une parole qui n'est pas une chose qu'on propose comme fascinum, objet d'admiration, mais comme une mise en partage. Fondatrice de communauté, c'est une expérience très particulière et très spécifique. Est-ce que tu as donc tu as parlé de Sotigui Kouyaté, tu as rencontré sans doute d'autres conteurs qui t'ont permis de faire cette expérience de circularité et de partage.
Mais à ce propos, Sotigui me disait. Dans une émission que j'ai fait avec lui sur France Culture, sur le théâtre en Afrique, il me disait, Peter Brook a beaucoup insisté pour que je vienne à Paris avec lui, parce qu'il l'a rencontré lors de son voyage à travers le monde que Brook avait fait avec 5 ou 6 comédiens, et avec un passage par l'Afrique noire. L'enjeu de ce voyage, c'était de ne pas s'adresser aux gens en connaissant leur langue, mais de s'adresser uniquement théâtralement. Il a embarqué Sotigui avec lui à Paris. Sotigui a dit, bon, je suis allé voir comment c'était, je suis allé voir si ça me plaisait ou pas, et j'ai vu que tout le monde était en cercle. Alors j'ai dit, je suis à la maison, c'est comme à la maison. Nous, ici en Afrique, on fait tout en cercle, tout. Parce que dans un cercle, tout le monde se voit, personne ne tourne le dos à personne. Et la parole circule entre tous. Donc c'est encore plus fort que la démocratie, c'est le summum de la démocratie. C'est quelque chose de presque sacré, quoi. C'est pas seulement politique, c'est le fait qu'on finit par être dans une réelle communion dans le cercle. Et oui, Sotigui a été quelqu'un d'important parmi mes rencontres, et notamment parce que je m'interrogeais sur les traditions africaines, sur le griot, et sur les origines africaines du théâtre, parce que je me demandais si au théâtre, on entendait souvent parler de gens qui allaient faire des tournées de Molière dans la brousse, des choses comme ça. Et ça me paraissait un peu étrange, parce que comme on dit toujours, il n'y a rien en Afrique, il n'y avait rien avant que nous arrivions. Mais même pour la culture, même pour le théâtre, on peut dire ça. Je veux dire, ça me paraissait étrange. J'y croyais pas. Donc je suis allé en Afrique pour ça, pour essayer de comprendre quelles étaient les formes spécifiques qui sont nées là-bas. Et je me suis rendu compte, c'est mon opinion, je me suis fait mon opinion là-dessus, que les sources sont fondamentalement les mêmes, mais que moi je soupçonne que certaines sont passées par l'Égypte, certaines formes africaines, que l'Égypte les a transmises à la Grèce, etc. etc. Je soupçonne que quelque chose comme ça s'est passé, parce que lorsque j'ai rencontré l'expérience du côté bas, par exemple, qui au départ n'est pas thérapeutique spécialement, pas plus thérapeutique qu'autre chose. C'est, vous voyez, vous êtes dans un village et vous avez un problème parce qu'il y a une personne qui a, par exemple, couché avec une autre personne et ça crée une difficulté dans un groupe, parce que normalement, ces deux personnes-là ne devraient pas faire ça. Donc ça perturbe la lignée, ça perturbe les relations entre les personnes. Et bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va faire un côté bas. On a un problème, on va faire un côté bas. Le côté bas, c'est pour résoudre un problème. Donc on fait un côté bas, et en fait, on fait quoi? On fait une comédie. C'est assez simple. D'abord, c'est une fête, c'est une grande fête. Côté bas, ça veut dire le grand escargot, donc les gens entrent dans la fête dans une spirale, comme ça, et puis dansent, et il y a un aspect un petit peu carnavalesque, comme ça, avec des fous, des bouffons, des gens qui font les choses à l'envers, etc. etc. Et puis, on joue la comédie. Et la comédie, on la joue devant tout le village, c'est-à-dire devant les gens concernés aussi. Les gens qui sont à l'origine du problème. C'est pas eux qui vont jouer, mais on va jouer leur problème. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup se moquer, on va exagérer, on va faire une espèce de truc complètement comique à partir de quelque chose qui mettait tout le monde mal à l'aise et qui perturbait la vie du groupe. Et à la fin, tout le monde va se fendre la poire, tout le monde va rire. Et c'est là que j'ai compris que la catharsis n'était pas réservée à la tragédie, mais qu'il y avait une catharsis comique. Vous voyez, quand on éclate vraiment de rire, pas sur un mauvais rire ou un rire facile, mais quand on se libère par le rire, c'est une catharsis. On se libère d'un problème, en fait. On se libère de quelque chose qui pèse. Et c'est ce que fait le côté bas. Donc il est thérapeutique dans ce sens-là, mais aussi bien qu'il est politique. Et quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré donc d'autres personnes qui m'ont parlé de leur rituel locaux et de leur forme de théâtre, etc. Et notamment Jean-Pierre Guinganet qui m'a raconté comment il avait monté Peer Gynt dans la brousse et comment c'était assez difficile pour lui d'expliquer à ses comédiens ce qu'était une vaste étendue neigeuse. Puisque tout ça se passe dans une vaste étendue neigeuse, Peer Gynt. Mais il a dit, on a quand même réussi, on a créé des trolls africains. Et il m'a dit, le troll africain que nous avons fabriqué, il est au musée Ibsen d'Oslo maintenant. Thank you. moi, l'oralité, face à la fixation terrible des règles du théâtre, face à la fixation terrible de la scène séparée de la salle, de l'impossibilité d'influer en quelque manière sur ce qui est en train de se dérouler, on aurait une possibilité un peu subtile, sans aucune obligation, mais de penser que ça peut être éventuellement de l'ordre du dialogue. Ce n'est pas une obligation, parfois on préfère écouter. Parfois c'est plus intéressant d'écouter, parfois on n'a rien à répondre. Mais cette possibilité fait que, et pour moi c'est ça l'oralité, cette possibilité fait que je suis moi-même personnellement concerné. Parce que la réponse, si elle ne s'exprime pas forcément, elle est en moi. Comment dire, on prétend que le théâtre produit ça, mais moi je dis que le théâtre empêche ça en réalité.
Je m'efforcerai de ne pas employer ici de mots ou de groupes de mots qui appartiennent à une école de pensée particulière. Je voudrais, si c'est possible, à ma façon, être entendu de chacun, avec des mots qui appartiennent à tous. J'espère y parvenir. Avec juste un mot, la révolution du sensible, sous-titrée « Relations entre l'art et la société au XXIe siècle », Nicolas Roméas propose un ensemble d'articles qui constituent un essai de poétique critique publié par l'édition Parole, illustré par un ensemble de photographies d'Olivier Perrault. Vous avez envie d'en savoir plus, bien sûr, hein ? Eh bien, dans ce cas, rendez-vous dans la seconde partie de cet entretien. En attendant la suite, vous pouvez réécouter cette émission sur cette première émission, donc sur le site www.c'estpaspourdire.fr et nous envoyer des commentaires, des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Merci Karine Mazel, merci Nicolas Roméas et à bientôt pour la deuxième partie de cette passionnante discussion.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
Et je prétends d'ailleurs, d'une manière un peu exagérée, mais j'assume cette exagération, que depuis que le cinéma a fixé la possibilité absolue de reproduire la même chose, le théâtre devrait en profiter pour redevenir libre. C'est-à-dire prendre sa leçon du côté de l'oralité.